Pour des raisons personnelles et pénibles, nous ne pouvons pas vous diffuser l'émission prévue pour aujourd'hui. À la place, nous vous proposons une ancienne émission que vous n'avez peut-être pas déjà entendue et nous espérons que vous aurez plaisir à l'écouter.
Sur les ondes des studios de Radio Résonance pour une nouvelle rencontre lusophone. Nous émettons sur la fréquence 96.9 à Bourges et j'espère que cette fin de semaine a très bien commencé pour vous.
Bonjour, ça va bien?
Tu vas bien Manu?
Oh oui, impeccable.
Alors on est tous les deux aujourd'hui. J'espère que tout va bien se passer.
Oui, il n'y a pas de raison.
Tu te sens bien? T'es à l'aise?
Oui. Okay. Oui.
Je vais dire deux mots sur ce qui nous attend au programme. Alors, nous allons aujourd'hui parler d'un grand monsieur. Il y a 20 ans, en 1998, le Portugal assistait à une reconnaissance toute particulière grâce à l'œuvre du célèbre écrivain et grand défenseur des droits de l'homme, José Saramago, à qui est attribué le premier prix Nobel de littérature lusitanienne de l'Académie de Suède. Parler de son œuvre, de son style de l'homme, énumérer sa bibliographie ne suffisent pas. J'ai dû faire des choix. Souvent admiré mais aussi contesté par l'Église et le pouvoir, ses livres faisaient polémique et il adorait ça. Nous choisirons quelques chefs-d'œuvre clés de sa colossale biographie pour évoquer ses engagements et ses réflexions. Mais avant cela, comme chaque fois, nous allons commencer bien sûr par la petite chronique qui se souvient. C'était hier, il y a quelques mois, le 13 novembre 2015.
Résonance 96.9.
Sur Rencontre Lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Cette semaine, comme nous tous, je n'ai pu m'empêcher d'avoir une pensée profonde pour toutes les victimes des attentats de Paris il y a 3 ans, le 13 novembre. Une horreur, encore une, venait de frapper notre pays en tuant des innocents. Je me souviens encore combien nous étions tous sidérés par ce qui arrivait. Alors je me souviens que nous nous sommes rapprochés les uns des autres et nous avons ressenti le besoin de parler pour nous extérioriser. Les réseaux sociaux ont au moins ça de bon. C'est que dans les moments difficiles, ils sont un moyen de poser des mots. Depuis ces attentats, nous avons donc pris conscience que nous étions des cibles potentielles. Et qu'en tant que tel, nous allons devoir apprendre à vivre avec cette épée de Damoclès sur la tête et s'inquiéter pour les siens. Alors nous avons dû assimiler le fait que nous allons devoir prendre l'habitude de voir se perpétuer de plus en plus ces horreurs. C'est ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire trouver en nous la capacité de surmonter tous ces traumatismes et tenter de mener une vie normale tout en tenant compte du danger. Alors la vie a repris son cours. Aujourd'hui, il est à déplorer qu'aucun pays dans le monde ne soit à l'abri d'un quelconque attentat terroriste, même s'il est vrai que certains pays présentent un risque supérieur aux autres. Un réseau international indépendant d'études des risques s'est amusé à établir le degré de dangerosité de chaque pays. Le plus grand risque se situant dans des pays tels que les États-Unis, le Bangladesh, l'Afghanistan ou la Turquie. En ce qui concerne les pays européens, c'est la France qui tient la triste première place, au Portugal étant bien loin, puisqu'il occupe la 38e place de ce classement. Il n'empêche que même relativement protégés par le risque d'attentat, les Portugais ont peur, une peur toute légitime évidemment. Mais depuis, certains Portugais, et c'est là le propos de ce billet, m'ont fait savoir qu'ils auraient peur de vivre en France. Certains m'ont même dit qu'ils craignaient pour notre vie, mais que pour autant ils n'étaient pas prêts de venir en France de peur des attentats. Propos choquants, égoïstes. Alors soit, la France est en première ligne dans la lutte contre le terrorisme, mais elle n'est pas seule, car il me semble que ce combat est le combat de tous les Européens et de tous les peuples du monde libre.
Évidemment, c'est un billet qui a été signé par Hélène.
Et nous allons peut-être pouvoir continuer après ce petit anniversaire par un autre anniversaire. Juste après ça.
Minha fonte já furou onde eu queria mergulhar. Minha dança e o desejo, minha ser, meu penar. Por te não ter a meu lado, ao teu lado ficarei. Eu contigo e tu comigo, tu não sabes, mas eu sei. Minhazinha, gostaria de te dar consolação. Dos fantasmas e demônios que te levam pela mão. Mas a vida são dois dias, são dois dias a correr. Antes queria eu poder-me dar-te um pouco de prazer.
Ai, eu não sei não, que fazer dos teus intentos. Que fazer das palavras que desfias. São verdades, são mentiras, são bolinhas de sabão. Eu confesso que me agrada ver-te assim. Para chegares junto de mim. Toma lá, hoje levas um beijinho. Amanhã mais um carinho. Só depois te digo não.
Bela como a lua, mais cheirosa que uma flor. És a minha perdição, és um rio de calor. E se tens que és em sol, já fiz por te provar. Boto-te um pouco de sal para te dar no paladar.
Ai, eu não sei não, que fazer dos teus intentos. Que fazer das palavras que desfias. São verdades, são mentiras, são bolinhas de sabão. Eu confesso que me agrada ver-te assim. Tanta rima para chegar junto de mim. Então vá lá, hoje levas um beijinho. Amanhã mais um pouquinho. Só depois te digo não.
Digo e torna a redizer que de todos que te querem mais do que eu não pode haver. São o teu porto seguro, as portas do meu coração. Que se agita e bate forte, toca com o carrilhão.
Ai, eu não sei não, que fazer dos teus intentos. Que fazer das palavras que desfias. São verdades, são mentiras, são bolinhas de sabão. Eu confesso que me agrada ver-te assim. Tanto rima para chegar junto de mim. Toma lá, hoje levas um beijinho. Amanhã mais um carinho. Só depois te digo não.
C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
Parler de son œuvre, de son style, de l'homme, énumérer sa bibliographie, souvent admirée mais aussi contestée par l'Église et le pouvoir, ses livres faisaient polémique et il adorait ça. Alors, nous choisirons quelques chefs-d'œuvre clés de sa colossale bibliographie pour évoquer ses engagements et ses réflexions. En ce samedi 17 avril et à un jour près, en 1922, hier, le 16 novembre, naissait José de Souza, exactement, Saramago. C'est à 75 ans, en 1998, que l'Académie suédoise lui attribue le prestigieux prix Nobel de littérature lusitanienne. Selon l'Académie suédoise, je cite, « L'art romanesque de Saramago, développé avec obstination et présentant des profondeurs insoupçonnées, place l'écrivain à un rang élevé. Pour avoir, grâce à ses paraboles soutenues par l'imagination, la compassion et l'ironie, rendu sans cesse, à nouveau tangible, une réalité fuyante dans une œuvre aux profondeurs insoupçonnées et au service de la sagesse. » C'est donc une grande année pour le Portugal qui célèbre cet homme qui reçut aussi le prix Camões en 95 et ils organisent des conférences, des réunions en congrès notamment au sein de la fondation José Saramago qui trouve ses murs na Casa dos Bichos à Lisbonne. Fondée avec Pilar del Rio, son épouse, c'est elle qui porte aujourd'hui le flambeau de leur action commune. José Saramago était au service de la sagesse, effectivement, au service de la défense des droits de la dignité humaine. Car le filigrane de ses réflexions, c'est son enfance, son adolescence, ses débuts d'écrivain, ou du moins les événements autour de lui, et ce qu'il percevait comme injuste ou déséquilibré contre quoi il voulait témoigner. Alors, sans être trop redondant avec les dates, nous allons néanmoins rappeler, peut-être pour certains, et apprendre à d'autres, brièvement, les dates importantes de sa vie, parce que son chef-d'œuvre est assez intimement lié à son vécu, à son passé familial. Il commence d'écrire son autobiographie en 2008, et on voit que sa pensée, son style d'écriture ont pris forme grâce à sa grande curiosité. C'est un autodidacte, passionné de lecture et de littérature. Il a vécu avec un grand-père qui racontait des histoires, des parents modestes, une enfance dans un milieu paysan, une adolescence détournée de la voie intellectuelle pour travailler comme serrurier. Rien ne le prédestinait vraiment à tout cela. Il parcourra les bibliothèques en dehors de son travail pour s'informer, étudier, apprendre, et il n'oubliera jamais d'où il vient. Avec les années, l'artisan cède la place à l'ouvrier d'usine. Il défend ceux qui se voient rejetés d'un monde qui change et où les traditions et les savoir-faire transmis se heurtent à un monde qui consomme, profite, jette. C'est toute une culture fondée sur la transmission des traditions et des savoir-faire, sur de riches relations interpersonnelles qui cèdent le pas à la société anonyme qui se profile et qui ne connaît que le rendement et le profit. Voilà à quoi assiste Sarah Mégot durant sa vie. Il se forge un principe fondamental qu'il n'a cessé de défendre, celui du droit à la dignité humaine avant tout, avant le commerce et avant les luttes pour le pouvoir. Il écrit déjà pour le journal Diario das Notícias en 74, l'année décisive qui annonce les événements du 25 avril 75, et signe un article où il fait constat des derniers moments de la dictature au Portugal. Le déclin de ce régime militaire renforce aussi sa position au sein de l'opinion et la confiance le propulse au rang de directeur adjoint du Diario das Notícias. Mais les événements politiques, bien sûr, de avril 75 le feront perdre ce poste. Bien qu'on ne le remarque qu'en 80, son œuvre est colossale. Et pour parler de Saramago, c'est 4 heures qu'il nous faudrait. J'ai dû donc choisir, voilà, quelques écrits, quelques poèmes aussi. Nous allons donc continuer avec un poème de José Saramago, Jogo de Lenço, interprété par Luiz Pastor.
Trago no bolso do peito lenço de seda fina, dobrado de certo jeito. Não sei quem tanto lhe ensina que quanto faz ser bem feito. A cena nas despedidas, quando a voz já lá não chega, por distâncias desmedidas, depois no bolso aconchega as saudades permitidas. Também o suor salgado às vezes enxugamento, e o lenço é mal empregado. E quando me feri um dedo, com ele o trouxe ligado. Nunca mais chegava ao fim, se as graças todas dissesse deste meu lenço e de mim. Mas uma coisa acontece, é que não sei porque sim. Quando os meus olhos molhados pedem auxílio do lenço, são pedidos escusados, e é bem por isso que penso, meus olhos se molhados só se enxugam no teu lenço. Quando os meus olhos molhados pedem auxílio do lenço, são pedidos escusados, e é bem por isso que penso que
os meus olhos se molhados só se enxugam no teu lenço.
Ancré dans l'histoire, en 1980, Levantado do Chão, relevé de terre, traduit en français, on le compare d'ailleurs à un germinal portugais, porte en germe, c'est le cas de le dire, l'œuvre à venir, avec sa générosité et sa puissance. Un triptyque qui assiste successivement à la montée de la dictature, la guerre d'Espagne et la fin du régime lazariste en 1975, ce à quoi il avait assisté en somme. Dans ce livre engagé, José Saramago va suivre la famille Mautempo, paysan des grandes plaines de Alentejo, une population qu'il connaît bien, sur 3 générations. Et c'est à la 3e génération, la petite fille de João Mautempo, dont elle a hérité la détermination, qui sera la première à sortir du latifundium pour aller travailler en ville, enfin relevée de terre, rompant avec des générations de femmes soumises et maltraitées. C'est elle qui verra la journée de 8 heures, la révolution des œillets, le 1er mai fêté en liberté en 1974. Il dira, lui, José Saramago, plus tard, que c'est en écrivant cette histoire qu'il a trouvé ce style d'écriture si particulier. Parce qu'il a mis du temps à le forger, Saramago manie avec aisance un art narratif tout en circonvolution. Sa langue coule en un grand mouvement qui mêle sans ponctuation, à part le point et la virgule, les dialogues, les réflexions, souvent ironiques du narrateur, les digressions historiques et le langage populaire. Tout ça coule sans aucune ponctuation. Il n'abandonnera jamais ce style si particulier. Il nous emmène dans son monde. Par la suite, il s'éloigne peu à peu du réalisme de ses premiers romans. Ses fables restent toujours très politiques et anticléricales, mais sont traitées comme des contes philosophiques, des paraboles qui surgissent d'histoires atypiques, mais toujours dans la métaphore des faits réels et historiques, et toujours fidèles à la défense de l'humain. Dans l'aveuglement, Ensaio da Cegueira, publié en 93, une fable adaptée au cinéma notamment, où on assiste à la cécité soudaine et contagieuse de tout un peuple, ou presque. Métaphore de notre refus d'affronter les injustices, une analyse sur la modification des relations sociales dans un groupe lorsque l'un des sens principaux fait défaut et les conséquences sur le fonctionnement de la société. L'ouvrage met en valeur la perte des principes civilisés d'humains, luttant pour leur survie. La déshumanisation est particulièrement marquée par le fait que, par exemple, tout au long de l'œuvre, les personnages ne sont jamais nommés. Les aveugles, par exemple, n'ont pas de nom. Ils sont décrits par une caractéristique de leur rôle dans l'histoire. Par exemple, il dit la femme du docteur ou le premier aveugle. Cette absence de nom propre se retrouve dans d'autres œuvres du romancier, comme Tous les noms, Toj ou Jnonj, une fable dans l'univers d'un emploi administratif de l'état civil. Une anecdote d'ailleurs sur l'état civil, peut-être en fin d'émission si on a le temps, je raconterai, mais bon, bref. À l'opéra aussi, après le cinéma, on fait du dieu manchot le célèbre Blimunda et innominé Dei, qui lui fait croiser le chemin de Azio Gorki, le compositeur italien. Il travaillera sur 2 livrets avec lui. Il aimait la politique, il la cherchait, il l'attendait avec une sorte de délectation. Et le changement de régime politique au Portugal en 1974 avec la révolution des œillets n'a en rien atténué sa faculté d'indignation. Car en 1992, son évangile selon Jésus-Christ reprit au théâtre où il nous présente un Joseph qui, hanté par le massacre des innocents, se suicide, scandalise comme une atteinte au patrimoine religieux portugais et sa censure conduit José Saramago à un exil choisi à Lanzarote, aux îles Canaries. José Saramago était un habitué de la provocation, déjà manifestée dès son premier roman, A Viúva, traduit en Terra do Pecado, publié en 1947 dans un Portugal gouverné par Salazar, marqué par le poids de l'Église catholique tout autant que du totalitarisme.
Lamas milenarias das lembranças, digo asas fulminadas, digo acaso.
José Saramago n'a jamais dissimulé sa défiance face à la construction européenne dont il a développé les déplorer les dérives libérales. Il disait s'interroger constamment sur la place confédérée par la Commission de Bruxelles et le Parlement de Strasbourg à son pays, pauvre et démuni, dont il craignait l'engloutissement. Pour lui, l'Europe était le royaume du libéralisme économique et du capitalisme, la force toute puissante qui allait détruire les économies sous-développées de la péninsule. Il était qualifié d'altermondialiste engagé, un eurosceptique, une position clairement manifestée dans le roman « A Jangada de Pedre », traduit « Le radeau de Pierre », qui fut écrit pendant les négociations qui précédèrent l'adhésion du Portugal à la CE. La symbolique de cet événement hors du commun est très forte. Ce roman fut publié en 86, l'année de l'adhésion. C'est un conte voltairien notamment adapté au cinéma aussi, où l'on voit la péninsule ibérique littéralement se détacher de l'Europe pour dériver vers le sud au gré de ce nouveau courant maritime qui fait disparaître la Méditerranée, le berceau de l'histoire. Sur ce radeau de Pierre, José Saramago donne s'en donne à cœur joie entre la perplexité des scientifiques, le désarroi des politiques et la population déboussolée au sens propre comme au sens figuré. En 1986, le Portugal obtenait avec l'Espagne le statut de partenaire européen. La négociation fut longue et délicate et la décision d'adhérer à la CE n'eut rien de consensuel. Beaucoup de politiques et d'intellectuels portugais, au lieu de l'intégration dans la communauté européenne, défendaient la formation de nouveaux rapports avec les ex-colonies du Portugal, lesquelles avaient conquis leur indépendance en 1975, après 14 années de guerre tout de même. Selon eux, ces rapports se seraient accompagnés d'une coopération privilégiée avec l'Amérique latine, où le Portugal avait des alliés politiques, le Brésil par exemple, et des intérêts culturels et économiques. Une telle option comportait aussi une action conjointe avec l'Espagne, historiquement et culturellement proche du monde hispanique latino-américain. On rattachait des liens historiques, culturels et linguistiques avec l'autre côté de l'Atlantique. Voici un extrait d'un entretien en 2000 publié par le magazine littéraire. José Saramago disait « Le Radeau de Pierre fut pris par de nombreux lecteurs pour un roman contre l'Europe communautaire. D'une part, ce roman où je sépare la péninsule ibérique de l'Europe est l'effet tardif d'un ressentiment historique dont je me suis fait l'écho. Je crois que seul un Portugais pouvait écrire un tel livre. D'autre part, et tel que je vois les choses aujourd'hui, le radeau s'est proposé d'être comme un remorque cœur qui entraînerait l'Europe et l'Europe tout entière vers le sud, qui l'éloignerait des ambitions triomphalistes et hégémonistes du nord et qui la rendrait solidaire des peuples exploités du tiers-monde. » Alors, qu'entend-il par effet tardif d'un ressentiment historique ? Et c'est là un des vieux rêves de nombreux Espagnols et Portugais, la réunification de l'Espagne et du Portugal plus de 3 siècles et demi après la fin de l'Union ibérique entre 1580 et 1640. Souvenez-vous, nous avons fait un sujet sur la défaite de Guadalquivir, la chute du roi Sébastien et l'accès au trône de Lisbonne en 1581 par Philippe II d'Espagne. La question, selon José Saramago, est géopolitique, culturelle, sociale et surtout humaine en termes d'histoire et se révèle parfois ressemblante ou du moins parallèle, et en termes de langue. Le portugais, l'espagnol, le castillan, le catalan, le basque et le galicien sont issus du latin et sont très influentes entre elles. Par cette métaphore du radeau, Saramago condamnait l'asymétrie des relations intereuropéennes. À ses yeux, le Portugal et l'Espagne, deux États sans économie prospère ni diplomatie vigoureuse, demeurent des nations subalternes et soumises aux nations plus puissantes. La relation harmonieuse et fraternelle forgée entre les personnages dans le radeau de Pierre soulignait les affinités et la proximité désirée entre le Portugal et l'Espagne, conditions nécessaires à l'accomplissement de leur commune vocation historique, à savoir le contact avec et l'insertion dans la géographie culturelle, économique et politique de l'Amérique latine et de l'Afrique.
Um sopro apenas, um arrepio de escamas, um perpassar de sombra, como de nuvem marinha que se esgarça nos radiais tentáculos da medusa. Não se dirá que o mar se comoveu e que a onda vai formar-se deste frênito. No embalo da água oscilam peixes e das algas as hastes serpentinas, à corrente se dobram como ao vento as searas da terra e as crinas dos cavalos. Entre dois infinitos de azul, a onda vem, toda de sol, vestida e rebrilhante, líquido corpo de reflexos cegos, e da terra o vento corre para ela, tal o macho cioso para a fêmea aberta, transportando consigo o pólen das flores, fecundada a onda rola agora trovejando na corrida para o parto que a espera, no leito de negras rochas que na costa se adorna de mil vidas fervilhantes. Mais alto ainda as águas se suspendem no segundo final da gestação imensa, e quando num furor de vida que começa a onda se despedaça no rochedo, envolve o singe, o aperta e dilacera da branca espuma, do sol e do vento que soprou, dos peixes, das flores e do seu pólen, das algas trêmulas, do trigo e dos braços da medusa e das crinas dos cavalos, do mar da vida toda. Nasce Afrodita, amor, nasce o teu corpo.
Alors, nous venons d'écouter Nasce Afrodite, un poème de José Saramago, interprété par Pedro Barroso. Et juste avant, je me suis un peu empressée sur le texte, j'ai oublié de vous présenter. C'était aussi un poème de Saramago, juste avant, qui était chanté par Louis Pastor et qui s'appelle Digo Pedre. Alors, on va continuer avec la communauté européenne, la CE, qui a fait polémique aussi avec Saramago beaucoup, on va voir encore. Alors, on posait les questions, l'Europe servirait-elle au Portugal? À quoi conduisait l'inclusion dans la CE? Et Saramago pensait que l'Europe communautaire maintiendrait le rang subalterne du Portugal, mais dans un cadre différent. Si auparavant le Portugal ne comptait guère dans le jeu des grandes puissances, l'adhésion à la CE ne ferait qu'insérer le pays dans le jeu général d'union et de convergence sans qu'il n'y acquière aucune importance finalement. C'est-à-dire que les relations de pouvoir au sein de la nouvelle Europe demeureraient les mêmes que dans le passé, des relations entre des puissances et leurs satellites. Pour José Saramago, libérisme est manifestement un concept culturel, c'est-à-dire que le noyau de la question ne fut jamais l'unification politique ou la formation d'une fédération hispanique, mais plutôt la réconciliation avec un passé partagé, mais dont l'oubli a provoqué l'éloignement réciproque, la méconnaissance mutuelle et par conséquent l'amoindrissement de l'importance internationale de Libérie. Il ne suggère pas explicitement la création d'une communauté de type nouveau, il invite simplement les lecteurs à réfléchir sur les alternatives à l'Europe. On peut noter que l'ancien député socialiste espagnol Casimiro Calderón et l'homme politique portugais Paulo Gonçalves ont constitué à travers la déclaration de Lisbonne le parti ibérique qui vise à rapprocher Espagne, Portugal et Andorre pour en faire à terme une seule et même entité étatique. Leur objectif est ainsi de renforcer le poids démographique, économique, politique et diplomatique des trois pays, notamment donc vis-à-vis de l'Union européenne, tout en respectant les particularités culturelles et l'identité de chacun. Et il ne s'agit pas d'intégrer le Portugal dans l'Espagne, mais de créer un grand ensemble où les trois partenaires seraient sur un pied d'égalité. Les trois langues officielles donc du parti sont donc l'espagnol, le portugais et le catalan. Donc vous voyez, les rêves de Saramago finissent par se réaliser et ses buts à court terme et à moyen terme sont très concrets. Favoriser la collaboration entre l'Institut Cervantes et l'Institut Camões, créer des ligues sportives ibériques, promouvoir l'enseignement bilingue, permettre la validité automatique des titres scolaires et universitaires acquis dans l'un des trois pays, harmoniser le système électrique, de sécurité sociale, de régulation des marchés, favoriser la coopération des banques centrales ou encore éliminer les organismes qui feraient doublon puisque nous ne serons plus qu'un. 2010, année de sa disparition, n'est pas si loin. Ce qu'il a réalisé et ce qu'il a laissé est toujours d'actualité face au néolibéralisme triomphant. José Saramago nous livre sa vision du monde courant au désastre, en même temps que son attachement profond aux valeurs universelles humanistes. Au pouvoir, il dira en janvier 2010, Nous ne changeons pas de vie si nous ne changeons pas de vie. C'est un peu naïf, effectivement. Et d'ailleurs, il le disait, au risque de paraître naïf, j'ose dire qu'il est nécessaire, qu'il est urgent de remettre de la bonté dans la relation entre les êtres humains. Mais pour que cela puisse se faire, il est aussi nécessaire et urgent de dénoncer radicalement tous les facteurs qui empêchent cette transformation, facteurs économiques, facteurs politiques, facteurs religieux, facteurs culturels et une infinité d'autres qu'il n'y a pas lieu d'énumérer ici. On dira que pour le pessimiste structurel que je suis, c'est montrer trop d'optimisme. Les cyniques auront même un sourire de supériorité, c'est leur travail. Et ils ne sont pas rares ceux qui sont payés pour cela. Il y a vraiment une langue à lui, Sarah Amago, c'est difficile de le citer, je fais de mon mieux en tout cas. L'année de sa disparition, il venait de publier à 86 ans, Caïn, un roman qui renforce son affirmation pour l'athéisme, son opposition à la Bible et à tous ceux qui s'y réfèrent, qu'ils soient juifs ou chrétiens, à la censure. Et il répondit, vraiment je me suis fait du mal, parce que je fais que des citations de lui, mais il parle tellement bien, j'avais tellement envie de dire des mots de lui que voilà, j'ai encore une citation. Il disait, j'ai l'habitude que l'Église catholique s'indigne de ce que j'écris, mais dans le cas de Caïn, considérant que le roman n'a rien à voir avec l'Ancien Testament, je m'attendais à une réaction purement formelle, juste histoire de ne pas rester muet. Ça n'a pas été le cas. Les évêques et les théologiens portugais ont sauté dessus à la vitesse des chiens de Pavlov, réagissant à la sonnerie. Il avait beaucoup d'humour entre nous aussi. C'est vrai que je les avais provoqués en disant dans des interviews que la Bible, qui est un manuel de mauvaises coutumes, écrit entre guillemets, ne devait pas être donné à lire aux enfants. Ils m'ont accusé d'avoir fait une lecture littérale du texte et je leur ai répondu que pour une lecture symbolique, il faudrait asseoir un théologien à côté de chaque lecteur croyant ou simplement curieux. Excusez-moi, j'ai envie de rire, mais bon, voilà, c'est vraiment très pertinent tout ce qu'il dit. Je sais pas quoi ajouter, je suis très émue. De redire ça. Il estimait laisser donc avec ce livre sa vision du monde et de la littérature qu'il entendait transmettre. Et il disait que c'était son dernier. Il n'aurait plus rien à dire après cela. Mais il ne comptait pas sur un coup du sort, si je puis dire. Et une petite pause pour nous remettre de nos émotions avec Deolinda et Mao Acordar.
Tem de haver mais, ai, tem de haver algo mais além do comboio no Cacém, ai, que se atrasa. Não pode ser, pois não, a vida uma espera em vão e ao lado alguém a ler outra desgraça. Vou com a gente que vai fazer do mundo algo melhor, que sonha e quer muito mais que apenas isto. Mas cá vai tudo a resmungar que o mundo tem mal acordar. Mas se há lugar para me sentar, eu não refino. Eu não refino. Algo há de haver, ai sim, que não seja nascer para ir a vida inteira ouvir gente com tosse. Deve existir, pois é um túnel do rocio até uma estação qualquer sem espondilose. Vou com a gente que vai fazer no mundo algo melhor, que sonha e quer muito mais que apenas isto. Mas cá vai tudo a resmungar que o mundo tem mal acordar. Mas se há lugar para me sentar, eu não. Refilo. Eu vou deixar, vão ver um sonho bom para viver até que o mau humor em mim esmoreça. Vou com a gente que vai fazer no mundo algo melhor, que sonha e quer muito mais que apenas isto. Mas cá vai tudo a resmungar que o mundo tem mal acordar. Mas se há lugar para me sentar, eu não refiro. Eu não refiro. E se há um Deus, talvez ele seja cá dos meus, e em vez de nos punir a todos, há dormeça.
Oh, vraiment, je me lasse pas d'écouter Diolinda. C'est trop, trop mignon. J'adore cette chanson. J'espère qu'elle vous a plu aussi. Un peu de légèreté dans ce monde politique, communautaire, tout ça. Toutes ces grandes idées, là, que nous déversons aujourd'hui. J'espère que vous passez un beau moment avec nous. Et nous allons continuer avec José Saramago, donc. La littérature, non, je vais encore le citer, hein, mais vu les états dans lesquels ça me met quand je le cite, mais bon, je vais continuer quand même. Il disait, la littérature, enfin il disait non, encore une petite histoire. La littérature ne change pas le monde, mais j'ai de plus en plus de raisons pour croire que la vie d'une personne se transforme juste avec un livre. Avec ces mots, José Saramago résume l'émotion qu'il a en lisant cette lettre d'une lectrice dont la vie a littéralement changé avec Todj Ujnomj, tous les noms. Il est toujours d'actualité, et non seulement avec cet événement, mais aussi parce que cette réflexion fait partie des premières pages écrites dans un cahier que Pilar del Río, son épouse, a retrouvé au fond d'un ordinateur en février dernier et qu'il écrivait en 1998, quelques mois avant de recevoir le prix Nobel. 8 ans après sa disparition et 20 ans après le prix Nobel, il a encore donc quelque chose à nous révéler dans cet ultime cahier qui paraît incroyablement en ce mois d'octobre au Portugal. Il est publié sous le titre « El Caderno dell'Anno del Nobel ». 200 pages qu'il laisse racontant son parcours à travers les continents pour faire entendre sa voix et ses critiques contre le pouvoir. Il y ferait état de l'importance encore de maintenir nos positions idéologiques. Après le prix Nobel, il a parcouru tous les continents pour donc faire valoir sa voix. Il raconte tout cela donc après dans ce cahier. Montrant un humaniste avec des opinions sur la littérature, sur l'importance de la lecture, il y dévoile une partie de la correspondance qu'il entretenait avec ses amis et ses lecteurs, de l'importance de l'autre et de la poésie. Pilar parle de Saramago aujourd'hui lors d'une interview et elle dit « José Saramago disait ce qu'il pensait et sentait. C'était une pulsion. Ses opinions ne venaient pas des strates supérieures de la société, mais ils lui venaient de toutes parts. » Le prix Nobel lui donna une plus grande visibilité, mais n'a pas changé ses principes ni ses critères politiques. Elle fait paraître une phrase du discours de José Saramago prononcée à Stockholm en recevant le prix Nobel. Il disait « L'homme le plus savant que j'ai connu dans ma vie ne savait ni lire ni écrire. Sentant que la mort allait venir le chercher, il a dit adieu aux arbres de son jardin en les embrassant et en pleurant parce qu'il savait qu'il ne le reverrait plus. » Il faisait bien sûr référence à son grand-père Geronimo, berger et conteur d'histoire, qui était analphabète. Vraiment, ce dernier cahier est un très beau cadeau d'anniversaire. En nous quittant, à l'heure où l'on parlait déjà du besoin de solidarité entre les peuples, entre les hommes, le besoin de concevoir une nouvelle manière de se comporter face à autrui dans le respect pour la sauvegarde planétaire, il avait une vision malheureusement un peu triste de notre avenir. Il disait « Ce qui se prépare sur la planète bleue, c'est un monde de riches, la richesse comme une nouvelle forme d'arianisme ». Un monde qui ne pourra plus se préoccuper de l'existence des pauvres, seuls survivront ceux qui sont strictement nécessaires au système. Tout homme a droit à la connaissance, à la lecture. La littérature l'a sauvé, lui a ouvert les yeux. C'est ce qu'il souhaitait que chaque homme fasse. La fondation José Saramago à Lisbonne constitue l'héritage qu'il nous laisse. Lui survit et a été créé pour ça, pour montrer l'importance de la littérature, la défense des valeurs humanistes, en collaborant sur des projets avec ceux qui, comme lui, pensent qu'un monde meilleur serait possible, qu'un homme meilleur serait possible.
Sem mais nem menos que um dia selei a 125 azul. Foi sem mais nem menos que me deu para arrancar sem destino nenhum. Foi sem graça, nem pensando na desgraça, que eu entrei pelo calor. Sem pendura, que a vida já me foi dura para insistir na companhia. Não me diz nada, nem o homem da portagem, nem a entrada da autoestrada. A ponte ficou deserta, nem sei mesmo se Lisboa não partiu para a parte incerta. Vivo ao espaço que me fica pela frente e não me deixa, nunca me deixa recuar. Sem paredes, sem ter portas nem janelas, nem muros para derrubar. Talvez um dia me encontre assim. Talvez me encontre. Curiosamente dou por mim pensando onde isto me vai levar. De uma forma ou de outra há de haver uma hora para a vontade de parar. Só que à frente o bailado do calor vai-me arrastando para o vazio. E com o ar na cara vou sentindo desafios que nunca ninguém sentiu. Talvez um dia me encontre assim. Talvez me encontre. Sem mais nem menos que um dia selou a 125 azul. Foi sem mais nem menos que partiu sem destino nenhum. Foi com esperança, sem ligar muita importância àquilo que a vida quer. Foi com força acabar por se encontrar naquilo que ninguém quer. Mas Deus leva os que ama. Só Deus tem os que mais ama.
programme sur José Saramago et ce hommage que nous venons de lui rendre est terminé pour ce qui est du petit topo, donc les informations que j'avais retirées. Il y a beaucoup de choses à dire sur José. Il faut choisir, bien sûr. On aurait parlé de ses engagements aussi par rapport aux attentats du 11 novembre. Il s'en était donc offusqué. Bien sûr, on avait parlé. Par ailleurs, il y a beaucoup de choses dans sa vie qu'il a faites, notamment les traductions. Il a été traducteur de quand même des écrivains prestigieux français, Maupassant, Colette, mais aussi Baudelaire, André Bonnard, Henri Faucillon, Raymond Bayer, Hegel, Tolstoï. Donc c'est quelqu'un qui a quand même beaucoup travaillé avant d'écrire lui-même ses propres polémiques. Il s'intéressait surtout aux polémiques de tous ses contemporains, et ce qui a fait surtout affiner son écriture et bien sûr contribuer à ce goût qu'il avait particulier pour la littérature. Pour finir, j'ai eu beaucoup à cœur de le citer parce qu'il a dit de très belles choses, et j'ai envie de terminer en peut-être vous lisant un passage du Radeau de Pierre, justement, où on parle beaucoup de l'Espagne, du Portugal, ces gens qui s'en vont, qui dérivent. Et comme c'est quand même le fond de la vie de Saramago, il se battait beaucoup pour cette cause, ça vaut le coup de lire un petit passage. Et aussi de vous rendre compte qu'il se demandait beaucoup, se posait beaucoup de questions sur ce processus d'écriture. Il avait beaucoup de problèmes. J'ai pas parlé du livre qu'il a fait sur la calligraphie, Manuel la calligraphie, sur ce besoin d'écrire, ce besoin et en même temps de pas savoir vraiment ce qu'on écrit. Alors tout de suite un extrait, vous allez tout de suite comprendre. Ils sont assis par terre. Entre eux s'élève la voix nasillarde d'une radio dont les piles donnent les signes de fatigue. Et le speaker est en train de déclarer. Selon les dernières estimations, la vitesse de déplacement de la péninsule s'est stabilisée aux alentours de 750 mètres à l'heure, soit environ 18 km par jour. Ça n'a l'air de rien, mais si l'on fait un calcul précis, cela signifie que chaque minute, nous nous éloignons de 12 mètres et demi de l'Europe. Et tout en refusant de céder à un alarmiste débilitant, la situation est réellement préoccupante. Si, et elle le serait encore bien plus, si tu disais qu'à chaque seconde, ça fait 2 cm et des poussières, commenta José Anaïslo, habile en calcul mental. Il ne peut toutefois aller jusqu'au dixième et au centième, car Joachim Sassa le fit taire pour écouter le speaker, et ça valait la peine. Selon les informations qui arrivent à l'instant même à notre rédaction, il se serait produit une grande faille entre le Linéa et Gibraltar, ce qui fait que, compte tenu de l'effet jusqu'à présent irréversible des fractures, on peut déjà prévoir quel pennon va se trouver isolé au milieu de la mer. Si cela se produit, il ne faudra pas accuser les Britanniques, car la faute n'incombe à nul autre que nous et à l'Espagne, qui n'a pas su récupérer à temps ce morceau sacré de la patrie. Maintenant, il est trop tard, il nous quitte de lui-même. Cet homme est un artiste du verbe, commenta Pedro Ocre. Mais le speaker avait déjà changé le ton, et dominant son émotion, il poursuivit. Le cabinet du Premier ministre de Grande-Bretagne a communiqué une note selon laquelle le gouvernement de Sa Majesté britannique réaffirme que s'il nomme ses droits, à présent confirmés sur Gibraltar, je cite, par le fait indiscutable que le rocher est en train de se séparer de l'Espagne, ce qui signifie que toutes les négociations ayant un but éventuel, encore que problématique, de transférer la souveraineté sont unilatéralement et définitivement suspendues. Ce n'est pas encore cette fois qu'on verra la chute de l'Empire britannique, décréta José Anaïslo. Dans une déclaration du Parlement, l'opposition a exigé que le futur côté nord de la nouvelle île soit rapidement fortifié, de façon à ce que le périmètre du rocher constitue un bastion inexpugnable, orgueilleusement isolé au milieu de l'Atlantique, à présent élargi comme symbole du pouvoir immortel d'Albion. Ils sont fous, murmura Pedro Ocre.
Nem sei como começo. Fica tão difícil para mim. E digo com risas sem nexo. Perguntas porque estou assim. Eu nem sei explicar, nem vou contar.
que o tempo parou desde acordar. Esse teu jeito inocente que me faz não te querer largar. Ah, foram os teus abraços, o sorriso maroto, o teu corpo desenhado. E eu desajeitado e tu sem me dar troco fica mais um bocado. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá, não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá.
Tu não estás bem quando estás sozinha. Eu não percebo se tu estás na minha. Mas vá lá, não fiques convencida, só porque és mais gira do que querida. E então eu sou um perdido e um achado. Tu às vezes pões de lado, mas queres. E então eu penso em ti todos os dias, mas não sei se penso mais do que pedes. Foram os teus abraços, o sorriso maroto, o teu corpo desenhado. E eu desajeitado e tu sem me dar troco fica mais um bocado. E ela diz que não dá,
não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá,
não dá, não dá, não dá.
E ela diz que não dá,
não dá, não dá, não dá. Não dá porque se nos teus olhos eu vejo que tu queres mais de mim, eu grito, mas tu não vens. Nem tens alguém que te provoque, te deseje, te toque, te faça rir, te espere e te leve no meu hip hop. Quero ter-te por perto, vem ter comigo, és tu que escolhes. Nunca houve mais ninguém, tens o meu mundo nos teus olhos. Nada é incerto e tu és essa vontade de ter, de te querer, de sentir, escrever e dizer que és aquilo que eu preciso. Então eu sei que valia a pena, só não sei se são os meus abraços que te sabem a pouco e tu queres o teu espaço. Será que sou passado ou isto é só um jogo para me teres ao teu lado? Mas ela diz que não dá,
não dá, não dá, não dá. E ela diz que não dá,
não dá, não dá, não dá.
E ela diz que não dá,
não dá, não dá, não dá.
E ela diz que não dá.
Un maximum de musique, un maximum de son.
96.9, c'est Radio Résonance.
Voilà, cette émission est aujourd'hui terminée. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook. Avec le titre Rencontre lusophone au pluriel, d'y voir bien sûr nos émissions en podcast sur le site de Radio Résonance 96.9 à Bourges. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. À bientôt. Manu, on se dit au revoir.
Au revoir à tout le monde.
J'espère que ça s'est bien passé pour toi.
Oui, ça a été. Ouais.
Bon, d'accord. Donc, je vous embrasse tous et puis je vous souhaite une très bonne semaine.
Et n'oubliez pas que demain matin, demain dimanche, à partir de 15h, l'émission sera rediffusée et puis en podcast sur le site.
Achar que nunca vai servir, caguei o escudo de me aproximar. Só ponho creme nas manchas da pele se funcionar. longe achar que nunca vai servir. Caguei os cursos de me aproximar. Só ponho creme nas manchas da pele.